Vous inquiétez pas, on attend toujours parce que je vous regarde. Toujours des gens qui arrivent un peu. On attend toujours le quart d'heure pot de vin. Je le dis à chaque fois comme ça enregistré, ça va finir. Donc je vous remercie d'être là ce soir malgré les grèves et toutes les impossibilités pot de vin national. J'ai l'impression. En tout cas, merci Madame Opinel. Ça aurait été la semaine dernière, vous n'auriez pas pu être là, étant donné que nos conférences ont commencé le 22. Et que j'étais obligée malheureusement d'annuler, pour tous ceux qui le savent, la journée d'études sur le corps qui est reportée au 18-19 novembre 2008, mais la conférence de David Le Breton est reportée au 23 janvier 2008. Donc je vous remercie infiniment d'être là, Madame Opinel, c'est un plaisir de vous voir, on se connaît déjà, on s'est déjà rencontrés. C'est la troisième conférence du cycle Sous la peau, organisée en partenariat avec l'UFR Lettres et Langues de l'Université de Poitiers, en particulier avec le master dont Dominique Monconduit est responsable. Il n'est pas là ce soir, mais c'est le professeur Chépy qui le remplace. Merci aux étudiants d'être là. Donc c'est un thème, en effet, qui nous tient à cœur. Je ne dis pas qu'il nous tient à corps. On disait tout à l'heure avec Madame Opinel qu'en effet, on parlait beaucoup du corps en ce moment, c'était un phénomène de société. C'est pour ça aussi que ces journées d'études étaient intéressantes, toutes les réflexions qu'on a en ce moment sur le corps et qui sont très interdisciplinaires, en effet. Il y a des anthropologues, des médecins, des sociologues, des artistes, des littéraires qui se penchent sur ce concept. On voit aussi à travers l'histoire que ça fait, il y a certainement une réunion des disciplines, mais l'histoire nous dit que ça fait quand même un bout de temps qu'on s'intéresse à ce qui se passe dedans, mais ce qui se passe dehors et ce qui se passe dedans. On va le voir avec vous, madame, ce soir, sous la peau. Je vous remercie infiniment pour ce titre très beau que vous allez nous expliquer, qui nous fait un peu peur, Sous la peau, le martyr. Donc... Le titre de votre conférence est Écorché, plaisir et effroi d'une pratique perdue. Donc vous êtes HDR, vous êtes habilité à diriger des recherches en histoire des sciences. Vous êtes docteur en histoire de l'art, donc toujours l'interdisciplinarité, ce qui nous fait très plaisir ici. Vous êtes responsable du centre de recherche historique de l'Institut Pasteur, que je vous invite tous à visiter. Et vous travaillez en effet sur histoire et épistémologie des maladies infectieuses, histoire de l'entomologie médicale, construction des savoirs en parasitologie, représentation scientifique. Et vous avez aussi édité de nombreux ouvrages. Et un ouvrage qui est paru en juin 2005, Le peintre et le mal, 19e siècle au PUF. Et je vois que vous avez sévi aussi dans les cahiers d'histoire et de philosophie des sciences, édité par la Société française d'histoire des sciences. Donc j'en profite pour faire de la publicité ici. La photographie et la clinique des maladies parasitaires dans le premier tiers du XXe siècle. Et donc, vous avez deux titres à paraître. « Corps sommeilleux, déformé, interrompu, les tableaux cliniques des maladies parasitaires début XXe », un éditeur anglais. Et il y a un autre titre en anglais que je donnerai éventuellement si le public veut votre bibliographie, elle sera mise à disposition. Donc, merci beaucoup, Madame Opinel, d'être là. Nous vous écoutons.
Beaucoup. Alors, le titre, oui, je l'ai changé, Sous la peau, le martyr, parce que, mais en fait, je vais vous parler de martyr, tout simplement, de martyr, vraiment, vous saurez tout, ou à peu près, sur le martyr en sortant de cette conférence. Alors, l'image que j'ai choisie en couverture n'est pas du tout emblématique de ce que je vais vous raconter, parce que je vais vous parler plutôt de peinture du 16e, 17e siècle. C'est simplement parce qu'elle est très belle, cette photo, et c'est une artiste contemporaine qui s'appelle Rico Courc, mais qui n'a rien à voir, évidemment. Si, elle fait un travail sur la peau, mais qui n'a rien à voir avec ce que je voulais vous dire ce soir. Alors, donc... Je vais aborder donc ce soir le problème de l'écorchement, du transpercement de la peau comme supplice et celui de sa représentation. Alors, il sera donc question de supplice religieux ou mythologique ce soir, qui nous permettra de diriger la réflexion vers la représentation, ou plutôt cette non-représentation, quelquefois du ce que j'ai appelé le subdermique, c'est-à-dire ce qui est dedans, ce qui constitue le dedans du corps, les organes ou les viscères, ou ce qui est directement sous la peau, à savoir les muscles. ce n'est pas une conférence d'anatomie. Je laisse ce soin à Raphaël Mandrécy qui va venir et qui vraiment le fera de façon merveilleuse. Moi, c'est vraiment qu'une histoire de représentation et de religion. Donc je vais diviser mon exposé en trois parties inégales. La formation des peintres d'abord, les textes religieux, puis les images. Alors d'abord j'aimerais parler de l'accessibilité de la science de l'anatomie et sa place dans la formation du peintre. Alors l'esthétique du corps tranché, interrompu, mutilé, telle que l'exprime finalement la représentation du martyr, du supplice, en appelle naturellement au savoir d'anatomiste de l'artiste. Ces représentations souvent violentes doivent-elles être considérées sous le rapport d'une perversion de l'anatomie ? Et tout cela évidemment avec, pour toile de fond, l'exaltation d'une foi ardente. L'anatomie donc est utile à l'art, c'est un fait, on le sait. L'art n'est utile à l'anatomie uniquement en tant qu'organe de support didactique aux fins de représentation, alors que l'anatomie nourrit le savoir dans une peinture. La mesure du savoir scientifique des artistes nous importe quels furent les moyens pour eux d'acquérir ce savoir et quels usages en ont-ils fait. Les traités et les manuels, qui sont des références traçables, c'est ce qui nous reste en tant qu'historiens, sont les instruments de la diffusion des théories de la maladie. De la méthode, pardon, excusez-moi. L'anatomie artistique recouvre l'étude des formes extérieures du corps humain au repos et en mouvement, conduite en relation avec l'analyse méthodique de la charpente osseuse, ce qu'on appelle l'ostéologie, et puis les muscles, qu'on appelle la myologie. La différence avec la définition scientifique tient à l'ajout pour les scientifiques de l'étude fonctionnelle. Au XVe siècle, on constate une diffusion de la pratique de la dissection. Là aussi, je vous renvoie à l'ouvrage de Mandrécy qui s'appelle « Le savoir de l'anatomiste », qui est une excellente parution et dont vous aurez le plaisir de l'entendre de l'auteur lui-même. En Italie, les peintres du Quattrocento pratiquent la dissection et collaborent avec les médecins. Florence fonctionne comme un centre de recherche de précision et de rigueur scientifique. Les peintres qu'on y voit sont alors Masaccio, Andrea del Castagno, Pollaiolo, Verrocchio et puis Signorelli a Orvieto, qui est à côté de Florence. Les traités sont publiés, différents traités, Mondino à Padoue, Benedetti, Zubi, qui sont au début du XVe siècle des traités pratiques, avec souvent des références aux textes arabes ou grecs. Je voudrais simplement ce soir, puisque l'anatomie n'est quand même pas le sujet de mon exposé, vous citer deux publications majeures, néanmoins, parues toutes les deux en 1543, celle de Charles Estienne, des Dissectione Humani Corporis, et puis surtout la plus connue, celle de Vésale, bien sûr, De Humani Corporis Fabrica. À partir du XVIe siècle, l'anatomie fait partie de l'enseignement de toutes les académies de peinture. Le traité théorique, on étudie le nu, on dissèque les cadavres, et ça c'est important, savoir que l'artiste met les mains dedans, et puis on dessine bien sûr d'après l'antique. Autre référence, celle de Galien avec son ouvrage « Les os pour débutants et anatomie des muscles ». C'est un ouvrage qui est largement diffusé à la Renaissance par un Italien de Modène qui s'appelle Agostino Gadaldini, qui est donc son traducteur de Galien, et qui rédige les trois œuvres complètes en latin, en 1555, 56 et 57. Et là, je renvoie pour l'analyse des os pour débutants et anatomie des muscles de Galien à l'ouvrage d'Armel de Bru et de Garofalo, qui est une excellente référence. Alors, les recherches de fondements scientifiques ont commencé au XVe. Des traités simplifiés à l'usage des artistes circulent, l'essence de l'art et l'imitation. On retiendra que les artistes s'approprient de façon sélective ces connaissances anatomiques. Il ne faut pas oublier aussi quelque chose qui pourrait sembler anachronique, c'est-à-dire on a une sensibilité ici au 20 ou 21e siècle qui n'était absolument pas la même, évidemment, à l'époque. C'est-à-dire que la sensibilité anatomique était présente partout, aussi bien dans, dans la littérature, dans les livres de prière, dans l'art. Il y avait une banalisation de la mort qui faisait qu'on est beaucoup moins sensible qu'on ne l'est maintenant. Voir par exemple les vanités, vous connaissez les vanités, ce genre extrêmement à la mode à l'époque et qui fait circuler des images d'une violence remarquable, des corps en décomposition, tout ça pour justement revenir ou parler de la vanité de l'humain. Il y a aussi la mode des putréfaties, ces choses qui se putréfient, qu'on voit sur les tombeaux et les monuments funéraires, les décorations d'ossements, les déguisements de mendiants avec des restes humains, des mélanges de peau humaine aux cires anatomiques. Tout cela est extrêmement bien décrit aussi dans un ouvrage que je vous recommande, encore un autre, de David Le Breton, qui est évidemment « La chair à vif, usages médicaux et mondains du corps humain ». C'est paru en 1993, mais c'est tout de même quelque chose qui fait absolument référence. D'ailleurs, Le Breton aussi, vous l'invitez. Ah oui, en plus. Très bien. Alors maintenant, ce qui concerne les textes religieux et les sources disponibles. Au XVIIe, donc, les contrats avec les ecclésiastiques, les conseils des hommes d'église, pour terminer les tableaux, les œuvres conçues par les docteurs de l'église, pallient le savoir trop incertain de l'artiste. Il est important de savoir que l'artiste ne décide pas du sujet, il en reçoit la commande. L'Église fixe les programmes aux artistes qui se montrent alors dociles. Il est néanmoins intéressant de connaître ce dont les peintres disposaient pour parfaire leur savoir religieux. Quelle était la part de l'enseignement religieux et mythologique dans leur enseignement ? Alors pour ça, je vous donnerai quelques sources qui nous sont parvenues, mais qui étaient à ce moment disponibles. Donc, ce qu'on appelle les ménés ou les ménologes byzantins, ménologes de Basile, par exemple, que l'on trouve à la Bibliothèque Vaticane, où là sont répertoriés les saints de l'Église grecque. Tous les martyrologes romains, les martyrologes, un martyrologe étant une sorte de catalogue, si vous voulez, du saint, hein, martyrologium romanum. Bien sûr, quelque chose d'extrêmement accessible, puisqu'il est encore réédité, c'est la légende dorée de Jacques de Voragine. Et ça, je vous le recommande. Entre 1470 et 1500, plus de 100 éditions latines ont été publiées. Vous imaginez le succès de ce livre. Et puis, j'aimerais rappeler quelque chose à propos de la légende dorée que rappelle justement Jean-Pierre Lapierre dans la préface qu'il a fait de la légende dorée dans l'édition de 1998 au Seuil. Il rappelle que légende, dans ce cas-là, doit être pris dans le sens latin, legenda, ce qui veut dire lire, et non pas légende dans le sens fable. On est bien là dans la lecture, legenda sanctorum, de la légende des saints, hein, de la vie des saints. Parce que la légende dorée, effectivement, on lui a beaucoup tapé dessus. Elle mérite quand même d'être un peu, réhabilitée. Autre source, Laurent Sourius, De probatis sanctorum historiis, paru à Cologne en 1579. César Baronius, dans les annales ecclésiastiques, toujours fin XVIe, Martyrologium Romanum, donc l'acte des martyrs. Ce texte a eu vraiment un grand retentissement, même si parfois, effectivement, c'est une construction. Et puis celui-ci, peut-être le plus connu, les Acta Sanctorum, qui ont... Alors, je suis désolée de la photo, mais elle est très mauvaise, je n'ai pas pu faire autrement. Les Acta Sanctorum, qui sont édités par les Bollandistes, donc les jésuites de la Société des Bollandistes, c'est une entreprise d'édition qui a commencé en 1643 et qui s'est achevée au XVIIIe siècle, d'abord à Anvers, puis à Bruxelles. C'est énorme, il y a 60 volumes, ils sont gros comme ça, et surtout ils sont en latin. Donc c'est une recherche qui est assez difficile, c'est poussiéreux, mais vous n'êtes pas obligé de vous déplacer jusqu'à l'Institut des études augustiniennes, vous le trouvez sur Gallica, tout est numérisé. C'est vraiment d'un accès extrêmement pratique. Autre texte, celui de l'abbé Paul Guérin, s'appelle « Les petits bollandistes, la vie des saints », donc qui est du 19e siècle, celui-ci, 1866, et c'est en 12 volumes. Alors, évidemment, il y a une critique de ces textes au 16e siècle. Il y a Calvin qui parle du traité des reliques. Il y a Henri Estienne qui fait, dans son apologie pour Hérodote en 1556, un réquisitoire justement contre toutes ces formes d'abus et de tromperies auxquelles vont s'adonner les marchands, c'est-à-dire proposer des fausses reliques. Les fausses reliques, c'est-à-dire un os de ci, un tibia de cela. Estienne faisant même la... pas Estienne, Calvin faisant l'inventaire du nombre de doigts de Saint-Jean. Très amusé d'ailleurs Calvin par l'idée de conserver une relique bizarre qui est le Saint-Prépuce. Ça l'amuse beaucoup, il s'en étonne, il y a de quoi. Et effectivement, on dénonce cette espèce de superstition des catholiques à vouloir collectionner des morceaux de corps et puis surtout en revendiquant bien sûr leur authenticité. Autre travail critique sur les textes romains, celui de Don Ruinart, dans les Acta Sincera Materium, qui exclut beaucoup de saints qui lui semblent des inventions ou des constructions. Donc au XIXe siècle, ce savoir perdure et ses sources, dont je vous ai vraiment évoqué rapidement l'existence, sont la base plus ou moins rigoureuse de nombreux dictionnaires, de manuels d'histoire ecclésiastique, d'hagiographie, de collections de monographies et d'études iconographiques. Alors maintenant, en ce qui concerne les morceaux et les martyrs. Alors à propos de martyrs quand même, on va quand même s'intéresser à l'aspect, je ne vous en dirai pas longtemps avec ça, je ne suis pas théologienne, hein, mais quand même l'aspect de la théologie du martyr me semble important, au moins dans, pour fixer un peu les conditions. Alors si on se réfère... à l'article de François Vinel dans Connaissance des Pères de l'Église, s'appelle Aspect de la théologie du martyr dans l'Église ancienne, elle dit que c'est l'aveu, confession, qui, au cours du procès, il y a un procès du martyr, du chrétien, au cours de ce procès qui conduit le chrétien au martyr, au terme, je la cite, de supplices abominables dont la cruauté laisse confondue, de tortures multipliées à loisir dans le seul but de forcer le condamné à renier sa foi. Le martyrion ou martyrium est, si l'on suit Justin, que Vinel cite, le témoignage de foi porté à sa consommation effective, à l'acte suprême qui sanctionne en sacrifice d'oblation l'attachement indéfectible du martyr, martour, au Dieu unique. À la suite de quoi, quand même, une récompense, résurrection et félicité bienheureuse, quand même. Donc les rédacteurs des actes des martyrs insistent sur les parallèles que l'on peut découvrir entre le martyr et la passion du Christ, ça c'est important, la communion avec le corps du Christ, la présence de sang et de souffrance. Grabart, par exemple, dans son classique Martyrium, lui voit une image brillante du combattant. Et on est bien dans une idée de combattant, hein, combattant d'une foi jésuite, d'une foi de propagande. Alors, l'iconographie religieuse, surtout celle qui est encouragée par la réforme catholique, ce qu'on appelle la contre-réforme après le Concile de Trente, suscite une certaine forme de représentation anatomique. Les différents martyrs subis par les saints, je vais vous faire une petite liste, décollation, brûlure, déchiquettement, écorchement, éviscération, sagitation, énucléation, flagellation, lapidation, écartèlement, crucifiement, mutilation diverses. Donc tout ça sont autant de cas de chair blessée, montrant quelquefois la lésion et permettant à l'historien des sciences d'esquisser une carte médicale du martyrologe. À Saint-Philippe-Néri, à Rome, il y avait un collège des Anglais. Dans ce collège, il y avait une chapelle qui était dédiée à Saint Thomas de Canterbury, où il y avait des peintures qui exaltaient le martyr et qui servaient à la préparation des missionnaires jésuites pour l'Angleterre. Une espèce de formation. En 1582, à Rome, à la rotonde Santo Stefano, il y a des fresques peintes par Nicola Circignani, qu'on appelle aussi Pomarancio, qui sont uniquement consacrées au supplice. Un petit exemple, Sainte Hebe et ses religieuses qui se coupent le nez et les lèvres. Les prêtres sont coupés en morceaux, enveloppés dans des peaux de bêtes et dévorés par des chiens, ont le visage déchiré par des ongles de fer, comme Sainte Martine par exemple. D'autres sont jetés dans du plomb en fusion, d'autres écartelés entre deux arbres. Tout cela a été, ces fresques disparues, pour certaines d'ailleurs, pas toutes, ont été gravées dans un recueil représentant ces scènes de martyrs, donc dans un titre édifiant, un recueil au titre édifiant qui s'appelle « Ecclesiae militantis triumphi ». Ça date de 1585. Dickens, qui va à Rome en 1846, rapporte dans son livre qui s'appelle « Pictures from Italy » la violence de ces fresques. Et alors, je ne vais pas vous faire l'affront de supporter mon anglais. Yes? Ok. Vous l'aurez voulu. Autre supplice. In such a panorama of horror and butchery, no man could imagine in his sleep, though he were to eat a whole pig raw for supper. Dans un tel panorama d'horreur et de boucherie qu'un homme ne pourrait pas imaginer dans son sommeil, même s'il avait eu la veille pour souper à manger un porc cru entier. Gray-bearded men being boiled, fried, grilled, crimped, singed, eaten by wild beasts, worried by dogs, buried alive, torn asunder by horses, chopped up small with hatchets, women having their breasts torn with iron pinchers, their tongues cut out, their ears screwed off, their jaw broken. Donc, je traduis rapidement, on voit des vieillards qui sont bouillis, frits, grillés, froissés, écrasés, mangés par des bêtes sauvages, dévorés par des chiens, enterrés vivants, écartelés par des chevaux, coupés en petits morceaux avec des hachettes, des femmes qui ont leur poitrine arrachée avec des pinces de fer, leur langue arrachée, les oreilles également, et les mâchoires cassé. Et ça, Dickens en est horrifié. Il le répète, il le narre donc dans ce livre. Donc on voit évidemment que foi ardente voisine ici avec des supplices. C'est une notion qui est soigneusement entretenue par les jésuites qui diffusent largement ces images de supplices, ces images de terribles représentations. L'Église appelle à ne pas craindre ces images violentes, car il y a ici une glorification du courage des martyrs. Et d'ailleurs, dans une édition de 1587, ça je l'ai vu chez Le Breton, il rappelle que dans le théâtre de cette édition qui s'appelle « Théâtre des cruautés des hérétiques », l'imprimatur est donné par un chanoine. Donc c'est quelque chose qui est clairement officiel. Et là, on voit la cruauté à Norme, où les martyrs sont ensevelis, par exemple, jusqu'aux épaules et servent de but aux joueurs de boules. Donc, il y a une invention dans le martyr. Alors, justement, là-dessus, j'aimerais quand même citer Canguilhem, parce que, quand même, après tout, on a un cadre d'histoire des sciences, n'est-ce pas ? À propos, justement, de la fascination la fascination du monstrueux, et il dit dans son livre qui s'appelle La connaissance de la vie, à propos de, sur un article qui s'appelle La monstruosité et le monstrueux, il dit ceci, le monstrueux est du merveilleux à rebours, mais c'est du merveilleux malgré tout. Alors là, je vous laisse méditer là-dessus. Alors, les images. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié de vous parler de cette merveilleuse chose aussi, qui est parue aussi au XVIe siècle, s'appelle « Traité des instruments du martyr des divers modes de supplice » par Antonio Galionio. Et ce qui est formidable, ce qui est remarquable, si je retrouve ma note, c'est que cet ouvrage a fait l'objet d'une recension en 2005 par Jérôme Millon, qui rappelle qu'une de ses éditions, datant de 1904, donc une réédition de 1904, avait été retrouvée en fait chez un éditeur spécialiste d'édition pornographique. Alors là, c'est un autre sujet que je n'ai pas le temps de traiter, mais il ne faut pas mettre de côté, c'est l'étrange et l'étroite relation qu'il existe évidemment avec tout le côté sadomasochiste, j'en appelle au divin marquis, bien évidemment. Donc, rappelez-vous cela. Ça, c'est une chose que je ne traiterai pas ce soir, mais qui n'est pas à oublier. Alors, les décollations. Alors, les décollations, le corps décapité, est un bon prétexte pour évoquer ce qui, malgré tout, est inhérent à l'anatomie et à la chirurgie, l'attrait du tranchant, quel qu'il soit, et ce qui en résulte, c'est-à-dire un aperçu d'une architecture sous-cutanée. Ce terme repose sur l'approche de la représentation du corps ou de son utilisation métaphorique dans une perspective de chair tourmentée. On s'éloigne ainsi de la vision sereine et contrôlée du corps mesure chez Alberti. Je n'ai pas le temps de développer, mais Alberti, dans De Pittura, fait vraiment, et même dans De Architectura, une apologie du corps mesure, le corpo unit edificio. Ça, c'est extrêmement important, mais bon, c'est un corps mesure qui est ici complètement ignoré. Et l'idée de la beauté en peinture ou de sa perfection est également à rediscuter, ou du moins à revisiter. Alors, outre son côté spectaculaire et identifiable immédiatement, ce qui n'est pas toujours le cas des autres supplices, la décollation est un acte que l'on retrouve indifféremment dans un registre religieux ou dans un registre profane. Il ne change pas de nom, on dit décapitation ou décollation aussi bien pour un Holoferne comme pour un Saint-Jean-Baptiste, alors que les autres mutilations sont nommées différemment selon le mutilé et le bourreau, c'est-à-dire on va dire martyr ou encore supplice en religion, et on dit torture dans un registre profane ou laïque. Alors, voici différents... Ça, c'est Philippe de Champagne, donc l'invention des reliques de Saint-Gervais et Protais. Saint-Gervais et Protais étant deux frères, qui l'un a été pendu, je crois, et l'autre, vous le voyez, clairement décapité. Alors, voilà ce que j'appelle cette architecture sous-cutanée. On le voit ici, un aperçu, évidemment, du savoir anatomique du peintre. Alors, le moment est ici de l'invention des reliques par l'évêque. Alors, quand je dis invention, vous avez compris que c'est l'idée, le mot invention comme invention d'un trésor. Il ne s'agit pas de l'inventer, encore que, mais bien de le trouver. L'invention, inventer un trésor, c'est de le trouver. Donc, vous voyez cet hyper-réalisme des corps jaunes et puis découpé, au moins pour un jumeau, un des frères de ce merveilleux peintre qui est Philippe de Champagne. Là, c'est un registre profane, puisqu'on est dans un registre mythologique, celui de Judith et Holoferne. Alors, Judith et Holoferne, je n'ai pas le temps de vous raconter l'histoire, mais ça s'est très mal passé pour Holoferne, qui est un général romain qui a tenté de la séduire. Et vous voyez que la sanction est quand même immédiate et définitive. Elle est aidée pour ça de sa servante. Alors, outre le fait qu'il faut quand même être assez musclé pour trancher un corps, essayer de sabrer ne serait-ce qu'une bouteille de champagne, c'est déjà difficile. Alors, un corps d'un homme vigoureux, c'est quelque chose. Mais là aussi, la décollation est toujours le prétexte à une représentation violente et une représentation anatomique, vraisemblable. La voici, toujours en action, la même, par Caravage, avec ça. Et ça, c'est vraisemblable, parce qu'effectivement, quand le sang gicle ici, il y a des chances pour que ce soit quelque chose qui ressemble à un jet violent. Donc, alors, je passe évidemment sur l'analyse picturale. Vous remarquez le sang, la pourpre du rideau qui est derrière, qui effectivement va rappeler cela. Avec Botticelli, alors Botticelli, je l'adore, moi, parce que franchement, sous ces airs de Vénus magnifiques, il nous fait dans le songe de Nastagio des choses horribles, et ici, avec un Holoferne qui n'a plus du tout sa tête, n'est-ce pas, une section anatomique qui, effectivement, on appelle à un certain réalisme. Encore une architecture interne, intime, dévoilée. Ça, c'est Titien, dans un David et Goliath, encore un registre profane. Bon, vous savez l'histoire. Et voici donc le moment d'après, après le combat qui est représenté, avec effectivement un problème là aussi pour le géant, et qui est clairement défini sans aucune pudeur, sans aucune retenue de la part de Titien. Alors, autre tourment, les seins arrachés. Alors, les seins arrachés, c'est quelque chose qui fait mal, probablement. J'ai choisi Sainte Agathe, parce que Sainte Agathe est celle, effectivement, dont les seins sont arrachés avec des pinces de fer. Mais ce qui me plaît de montrer dans ces diverses représentations, c'est le stade que peut recouvrir justement une représentation de martyr. C'est-à-dire que vous avez ici quelque chose qui est la simple représentation de la sainte souffrante, avec les objets ici du supplice qui vont avoir, disons, une fonction métonymique, c'est-à-dire on va prendre l'objet pour le martyr, et ce qui évite évidemment de représenter la section douloureuse du corps. Mais pas toujours. Dans ces merveilleuses Agathe, celle d'en bas, on ne la voit pas trop. Mais celle du haut, de Francesco Guarino, vous avez non pas le sein arraché, mais la blessure que l'on devine, tout aussi douloureux d'ailleurs. Autre Sainte Agathe, de Lanfranco, une section, une entaille, tout simplement. Là, on commence à lui découper ce que les textes appellent la mamelle. Parce que dans les textes, les dents dorées, on lui découpe la mamelle. Et là, on les découpe franchement. Et cette façon de représenter est typique de toute façon de la peinture et de tous les martyrs qu'elle représente, mais surtout de Sainte Agathe, parce que si on s'attache au texte tel que le véhicule, la légende dorée ou même les Acta Sanctorum, il faut savoir qu'Agathe a eu effectivement un subit martyr, mais elle a été soignée dans sa prison par Saint-Pierre, qui a fait disparaître ses blessures. Donc c'est aussi une façon de se référer au texte. Les blessures n'existent plus. C'est une façon de témoigner aussi de la connaissance du texte. Et puis aussi, ils sont comme ça. Ah, elle est mauvaise. Ils sont aussi présentés, là aussi, fonction métonymique. Alors, quand j'ai vu ce tableau de Zurbaran que j'adore, me fait penser à quelque chose. Je ne sais pas si vous avez vu La Grande Bouffe. Avec l'épisode final où... comment elle s'appelle Andrea, voilà. Apporte une paire de seins engelés à Piccoli. C'est exactement ça. Alors, les plus jeunes, vous ne l'avez peut-être pas vu, je vous le recommande. Vraiment, je vous le recommande. Pas pour ça, parce qu'il n'y a pas que ça, mais La Grande Bouffe est un film absolument excellent. Les sens sont absolument... convoqués dans tout ce qu'on peut imaginer. Alors, l'éviscération, c'est un truc franchement répugnant. C'est effectivement... disons que ça vient plutôt d'un saint qui s'appelle Saint Érasme. Saint Érasme, dont on dit, d'abord, parce qu'il a eu un plaisir un peu différé. Là, d'abord, si on suit la légende dorée, ses dents furent retirées hors de sa tête avec des pinces de fer. Après qu'ils le rattachaient à un poteau, ils le retirent sur une grille de fer, éclouèrent des clous métalliques dans ses doigts, puis arrachèrent ses yeux hors de sa tête avec leurs mains. Donc ça, c'est une première chose. Vous noterez d'ailleurs dans ce texte cette différence entre doux et dur, entre le fer et la chair. On parle très souvent de fer. Et puis, il s'est sauvé de sa prison parce qu'il n'en est pas mort, et on le capture et on le torture à nouveau. Et je reçus la légende dorée. Après avoir péché ardemment et converti de nombreux païens au christianisme, parce que c'était ça le problème des martyrs, hein, c'est qu'ils convertissaient à tour de bras, c'est bien ce qu'on leur reproche. Hein. Je ne l'ai pas précisé, mais vous le savez. Donc finalement, d'après la légende, son estomac fut ouvert en deux et ses intestins enroulés autour d'un cabestan. Alors, un cabestan, c'est une espèce de treuil pour entourer les cordes. Avant de vous présenter quels qui furent Érasme, j'en appelle à un précédent héroïque qui est Caton d'Utique. Alors, qui est Caton d'Utique? C'est simplement, on le trouve chez Plutarque, dans la vie de Caton d'Utique. C'est un Caton, donc Caton le Jeune, qui est un adversaire politique de Jules César et qui, à la chute de la République, préfère se donner la mort plutôt que de survivre à cette chute-là. Alors, sa mort est très héroïque. Il s'éventre avec son sabre, mais là aussi, un peu comme Saint Érasme, un médecin vient lui recouler le ventre, et là, la scène est décrite, il repousse le médecin, et nous dit Plutarque, il ouvre ses plaies et arrache ses tripes avec ses mains. Donc on est dans ce registre-là, ici, et vous avez la même chose, la même représentation ici. Évidemment, Caton d'Utique n'est pas un martyr, c'est un exemplum virtutis, c'est quelqu'un qui, effectivement, de sa vertu, va donner un exemple. Et on le retrouve, on le retrouve pas, disons qu'on retrouve ce supplice chez Saint Hiram. Vous voyez, alors ça, c'est très, très, en revanche, très soft. Vous ne le voyez peut-être pas, mais ça, c'est sa tripe qu'on entoure autour de cet intestin. Là, ça va, vous voyez, il y a un petit trou, s'il n'y a pas de sang. En revanche, Poussin, Nicolas Poussin, lui, va le traiter de façon beaucoup plus zoologique, on va dire. Franchement, on dirait un cochon qu'on est en train de d'éviscérer. Hein. Et là, ça, c'est absolument abominable. Et c'est chez Poussin, ce qui me plaît, c'est cette façon dont il a de, disons, de bousculer l'ordre anatomique. Alors, je voulais simplement revenir sur deux minutes sur l'anatomie. Mandré, si vous en parlera peut-être aussi, mais chez Galien, on le trouve, ça. C'est-à-dire que l'ordre de dissection, quand on dissèque un corps, il y a un ordre bien particulier. C'est-à-dire qu'on va vers tout de suite ce qui est le plus putréfiable, les viscères, et on termine par ce qui est le plus durable, les os. Et ça, c'est un ordre de dissection qui est l'inverse de l'ordre de composition ou de description. On va, ici, on va en dissection, je veux dire, du dedans vers le dehors, alors que quand on décrit du dehors vers le dedans. La description, rappelle Galien, c'est de la tête aux pieds, à capiter ad calcem, dans cet ordre-là, et puis de l'extérieur vers l'intérieur. Ce que Galien appelle un ordre topographique. Alors l'ordre topographique, d'ailleurs, dit-il, est différent aussi d'un autre ordre. L'ordre fonctionnel, par exemple, l'ordre fonctionnel commence par le cœur. Donc vous voyez qu'en dissection ou en description, les choses ne sont pas tout à fait évidentes. Et ici, on est dans un bousculement de la représentation. On bouscule, on inverse l'ordre de description, puisqu'on est dans un ordre de dissection. On extirpe la tripe, c'est ce qu'on voit d'abord, avant de s'attacher au corps lui-même. Avec, effectivement, ce fil conducteur. Mais cet aspect totalement animal de ce pauvre Saint-Érasme est absolument épouvantable. Ce que vous noterez, que je n'ai pas assez insisté, c'est la présence, malgré tout, d'un certain ordre humain. Il y a des architectures, il y a un ciel. Bon, ici, il y a des petits anges, évidemment. Mais ce que je veux dire, l'humain est ici. La représentation d'un martyr n'est pas quelque chose qui serait hors d'une réalité. Et elle est souvent rappelée, justement, par la présence d'architecture. Alors, les tourments divers, je n'ai pas vraiment le temps de... Oh, celle-ci est assez comment on revient en arrière, voilà. Celui-ci est assez formidable quand même. C'est Rubens avec le martyr de l'évêque de Saint-Liévins. On lui arrache la langue. Alors la peinture est mauvaise, mais j'ai réussi quand même à avoir ce détail où on donne au chien la langue du martyr à manger. Oui, Rubens ne recule devant rien. Vous voyez que les peintres pouvaient quand même profiter de ce savoir anatomique, dont je rappelle quand même qu'on ne sait pas, naturel et haut des beautés, comment se consiste une langue, se constitue une langue si on ne l'a pas vue. Bon. Alors, j'en arrive vraiment aux écorchements, qui est normalement le croquant de l'affaire, si je puis dire. Dans le traité des martyrs, Galonio nous le montre, cet écorchement. Alors, on le voit bien, avec cet écorchement, c'est-à-dire on enlève la peau, vraiment, comme un manteau, et elle traîne ici, toujours dans un paysage d'architecture. Et c'est clairement indiqué. Et on se retrouve toujours dans ce traité, autre supplice d'écorchement, avec les instruments. Ce qui me fait dire que cette présentation rappelle de loin, je ne sais pas si vous la connaissez, l'encyclopédie de Diderot d'Alembert, quelque chose qui est... Vous avez le métier, puis vous avez les outils. C'est quelque chose de très didactique, quand même. Alors, l'écorchement. Je vais commencer, ça sera donc... Enfin, commencer, ça sera la dernière partie de l'exposé, par... Bon, ça, c'est simplement pour vous montrer que les anatomistes écorchaient de façon... remarquable, mais représentait de façon dynamique. C'est un écorché qui marche, comme dit Canguilhem, l'homme de Vézal, par exemple, c'est pas Vézal, mais ça a été influencé, puisque ça c'est 1627, Vézal c'est 1543, Canguilhem le dit, l'homme de Vézal est un homme responsable de ses attitudes, il marche dans un paysage aussi. Alors, je voulais simplement commencer par, non pas un registre mythologique ou un registre religieux, mais par quelque chose de moral. Ici, il s'agit du jugement de Cambyse. Alors, le jugement de Cambyse, c'est une scène qui est peu représentée, qui n'est pas très connue. Alors, je vous raconte l'histoire vite fait. Le juge Cisamnès, ce personnage-là, était un des juges royaux de l'Empire perse, qui était sous le règne du roi Cambyse. Et ce juge a été condamné pour forfaiture. En effet, il avait abusé de son pouvoir en acceptant de rendre une sentence inique pour une certaine somme d'argent, ce qui ne se fait pas. Donc Hérodote raconte que le grand roi perse, Cambyse, le fit écorcher vif pour le punir de sa prévarication. Et on assiste ici donc à un véritable écorchement, un écorchement ni mythologique ni religieux, un écorchement moral extrêmement bien représenté, où on ouvre le pauvre juge comme un lapin et on le dépiote, exactement ça. Alors l'histoire aussi, il y a toujours des petits rebondissements. Selon Hérodote, Cambyse ordonna également que l'on découpe les bandes de peau du malheureux et qu'on les tende sur le siège du juge. Une fois le siège recouvert, Cambyse désigna le fils de Cisamnès, Otanès, pour succéder à son père en lui commandant de se rappeler sur quel siège il était assis lorsqu'il rendrait la justice. Voilà. D'ailleurs, je pense que c'est ce qu'on voit ici qui représente ce siège. Vous me direz, être assis sur un siège de cuir, c'est toujours être assis sur la peau de quelqu'un. Mais sauf que celle-ci, c'est une peau humaine quand même. Autre écorché, c'est évidemment le fameux Marsyas. Marsyas est un Silène. Donc là, on est dans un registre mythologique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais aller vite, simplement. Silène est un présomptueux qui a voulu rivaliser avec Apollon à propos d'une flûte et en prétendant que lui, Silène, savait mieux jouer qu'Apollon. Ça s'est très mal passé. Et effectivement, il y a eu une provocation orgueilleuse de la part de Silène. Et après sa défaite, Apollon a décidé de l'attacher à un pin et il l'écorcha de sa main. Alors il y a des légendes diverses, hein, selon que ce soit Apollon qui l'écorche, selon qu'il laisse cette basse besogne à un scythe. Enfin, toujours est-il que Silène est écorché comme un lapin cette fois. Hein. Il est pendu par les pieds. D'ailleurs, je vous rappelle la nature hybride du Silène. Hein. Quand même un mi-animal, c'est une construction. Et là, on le dépiote. Je sais pas, moi, une fois, on m'a amené à la campagne et on m'a montré comment on dépiote un lapin. C'est horrible. Eh bien, c'est exactement la même chose. On le pend par les pieds et on lui enlève la peau. Petit raffinement. On rapporte aussi que la dépouille de Marsyas était agitée de soubresauts chaque fois que les vibrations de la flûte en question ébranlaient l'air. Donc c'est une dépouille qui est vivante. Ovide aussi lui consacre dans la sixième livre de ses Métamorphoses un passage où il dit à propos de Marsyas parle et dit « Pourquoi me déchires-tu » s'écria Marsyas. « Ah, je me repens de mon audace. Fallait-il qu'une flûte me coûtât si cher ? Cependant, tous ses membres sont dépouillés de la peau qui les couvre. Son corps n'est qu'une plaie. Son sang coule de toutes parts. Ses nerfs sont découverts. On voit le mouvement de ses veines. On voit ses entrailles palpitantes. Et l'œil peut compter ses fibres transparentes. » Donc on est vraiment là dans une véritable description anatomique de la part d'Ovide. C'est absolument remarquable. De vraisemblance. Alors voilà différentes, vous prierez de m'excuser sur la qualité du tableau, des reproductions, différentes façons de représenter Marsyas. Rare de le voir hurlant, hein, quand même, la douleur est représentée, là, quand même, quelque chose qu'on en... Le voici ici. Très beau tableau de Ribera. Alors, je ne comprends pas du tout la construction. Je ne vois pas comment sa jambe est... Je n'arrive pas à comprendre la construction du corps du Silène ici. Mais on le voit bien, c'est un écorchement en bonne et due forme. Une ouverture. Autre écorché, Saint-Barthélemy. Ça sera votre dernier, Saint-Barthélemy. Alors, Saint-Barthélemy est un apôtre qui ne joue aucun rôle dans les évangiles ni dans les actes des apôtres. D'après la légende, il aurait évangélisé, après la mort du Christ, l'Arabie, la Mésopotamie et l'Arménie. Suivant le martyrologe romain, il aurait été écorché vif, vivus decoriatur, sur ordre du roi Astyage, suite à la conversion de ses sujets. Alors, ce qui fait de lui un saint protecteur de différentes professions qui, évidemment, ont rapport avec ce genre d'exercice, patron des bouchers, des charcutiers, des corroyers, des gantiers, des relieurs, Et puis bizarrement, des tailleurs. Pourquoi des tailleurs? C'est simplement parce qu'il porte sa dépouille comme un manteau. Donc ce qui fait... On le représente drapé ou dépouillé, comme Marsyas. Les accessoires sont son couteau et sa propre dépouille, qu'il porte comme une peau de rechange, souvent. C'est-à-dire qu'on le représente entier, mais avec une peau de rechange, un peu comme Michel-Ange l'a représenté ici. Un peu comme ces saints céphalophores, Saint-Denis, qui a sa tête sous le bras, mais quand même sa tête sur ses épaules. Donc un peu, je vous dis, une tête de rechange, une peau de rechange, quelque chose pour les temps plus durs. Dans Guérin, dans l'abbé Guérin, dans le traité des petits bolandistes, on voit une autre description. Astillage, aigri de ses paroles, fit fouetter rudement le saint prédicateur. Ensuite, par une barbarie qui surpasse tout ce que les hommes ont jamais inventé de cruel, il le fit écorcher tout vif, depuis la tête jusqu'aux pieds, donc ça en est bien acapité ad calcem, de sorte que, n'ayant plus de peau, on ne voyait en lui qu'une chair toute sanglante et percée horriblement de ses os. Enfin, comme après ce supplice, dont le récit même fait frémir, dit-il, il respirait encore et lui fit couper la tête. Donc, on ne se lasse pas d'avoir une littérature quand même extrêmement précise. Alors, je voudrais quand même revenir sur cette excoriatio Bartholomaï, telle que les appelle... qu'on le trouve dans les actes Sanctorum, oui, un vivus decoriatur. Alors decorio, ça vient du latin qui veut dire enlever la peau, peler. Mais vous avez aussi excorio, hein, qui est aussi enlever la peau, écorcher. D'ailleurs, on parle d'excoriation. Hein. Corio étant le cuir. Ce qui est intéressant, si on pousse un peu plus loin, il y a le mot pelis pour peau, pelle. Hein, la pelis qui veut dire peau, enveloppe, mais qui veut dire aussi, et ça c'est intéressant, manteau, masque. Donc on est bien dans une idée de représentation. Alors ici, je voudrais simplement, si je vous montre celle-là, c'est à la chapelle Sixtine. Si vous avez la chance d'éviter les 48 milliards de Chinois, de Japonais, les jours de chapelle Sixtine, d'ouverture... Enfin, c'est trop difficile de la regarder. De toute façon, on n'y arrive jamais. Donc, allez sur un site où il y a des bonnes images et vous verrez ceci. Ceci est connu. C'est donc Michel-Ange qui représente Barthélemy, corps tout à fait Michel-Angeles, qui porte sa dépouille, mais qui porte sa dépouille avec un portrait qui est en fait ce, voilà, c'est celui de Michel-Ange, c'est l'autoportrait de Michel-Ange. Alors, il y a eu des analyses d'esthéticiens très, très remarquables qui disent en substance ceci. Michel-Ange se représente en Barthélemy, une sorte de Marsyas aussi, avec une dépouille qui est preuve d'un masque tombé, de quelque chose qui fait qu'il ne veut pas lui rivaliser, ne pas être orgueilleux comme Marsyas qui rivalise avec Apollon, et ne pas rivaliser finalement avec Dieu. C'est une des interprétations. Il y en a beaucoup d'interprétations sur cet autoportrait des plus étranges de Michel-Ange. Je vous rappelle que Michel-Ange était connu pour être aussi ce qu'on appelle mélancolique. Vous voyez cette histoire de peau, on le retrouve dès 1559, donc juste après la chapelle Sixtine, c'est à peu près des années 1545 à peu près. Hein. Et après, on retrouve chez Valverde, qui est un excellent anatomiste, deux choses contradictoires. Un magnifique écorché, remarquable, et cette chose qui est la dépouille, tout à fait mythologique, tout à fait... fantastique, romantique, qui n'a rien à voir avec la réalité. Jamais on ne peut dépouiller quelqu'un et avoir un masque pareil. Donc on est vraiment ici sur un registre hybride. Voilà quelques représentations de Barthélemy, beaucoup plus calme, celle-ci. Celle-ci est merveilleuse. Tiens, ben c'est le fameux Circignani, celui qui a effrayé Dickens. Donc, dans une autre de ces représentations. Moi, ce que j'aime dans cette représentation d'un saint Barthélemy, outre cette vue en contre-plongée, qui est absolument formidable, mais ça, c'est dû certainement au fait que ce soit une fresque murale, c'est surtout le secours de la couleur rouge pour signifier le subdermique. Ici, on est avec la peau. Ici, on est sans la peau. Et c'est la couleur ici qui fait la différence. Un de mes Barthélemy préférés, c'est Bronzino. Bronzino est un maniériste. C'est un peintre qui fait des tableaux absolument merveilleux. Et puis, qui fait ce Saint-Barthélemy qui, vraiment... est un véritable écorché cette fois. Là aussi, on est aux confins de la représentation anatomique. Alors, la pose est étrange. C'est une pose maniériste, maniérisante, qui rappelle étrangement un autre tableau de Bronzino qui s'appelle Vénus et Mars. Et c'est, la Vénus a exactement cette même position, sauf qu'elle est occupée à des plaisirs quand même un peu plus certains. Et cette représentation de l'écorché est quelque chose qui, pour moi, vraiment explique finalement cet exposé d'aujourd'hui. Parce que là, on voit vraiment que cette peau, c'est l'écran qui va séparer l'homme, le martyr, de l'écorché, l'humain de l'anatomisé. On est vraiment ici à cette frontière-là. C'est étonnant, cette capacité dynamique des écorchés, je vous rappelle, chez Vézal, mais c'est effectivement ce qui fait la différence avec les écorchés anatomisés. Et puis rappeler que finalement, les martyrs sont avant le stade final des êtres vivants. Ce ne sont pas des cadavres disséqués, ce sont des êtres vivants. Mais évidemment, sont en passe de perdre ce que Breton appelle, et ça, je trouve ça merveilleux, leur statut anthropologique. Et c'est exactement ce qui se passe. Alors, ce qui est remarquable aussi, si on fait une rapide et brève analyse de l'œuvre, c'est tous ces rappels de la peau, la pellice et du drapé. Là, voilà la peau, elle est ici, hein, il est dessus. Mais le manteau, est-ce un manteau? Est-ce une peau? Et puis, ce drapé qui est ici. Ça, c'est une représentation absolument merveilleuse. Ça s'ouvre comme une chaussure sur un écorché digne des plus grands anatomistes. Alors, je voulais simplement rappeler qu'à la différence de la peinture et d'une certaine littérature religieuse, la littérature générale... Et je ne parle pas ici, encore une fois, des écrits sur la souffrance, le mot est fait, bien sûr, comme l'on trouve chez Sade ou même chez Octave Mirbeau dans le Jardin des Supplices, par exemple. Donc ici, cette littérature générale va exposer, qu'on trouve certaines fois, un exposé de l'état morcelé, mais elle ne s'attache pas vraiment à la description anatomique qui est inhérente à la section des chairs. Le morceau en littérature l'intéresse plus que le reste du corps qui l'on trouve, plus que ce qui se trouve sous la peau. En conclusion, je dirais qu'il y a un risque inhérent ici aussi à une analyse restreinte à un thème, à savoir l'extrapolation, l'extension d'une particularité à l'ensemble. J'ai exposé ici certaines images, mais sachez quand même qu'elles constituent une faible proportion d'une production générale beaucoup plus soft. J'ai évidemment, pour mon exposé, cherché ces images, mais c'est une faible proportion, il faut le savoir quand même. On n'est pas, les peintres ne sont pas des pervers absolus, hein. C'est moi qui le suis. Donc, dans la peinture religieuse, l'idée de la souffrance passe aussi par l'expression des passions et des attitudes, les affectifs qu'on trouve chez Poussin, mais pas forcément par la description physique des supplices infligés. Les supplices d'un Saint-Laurent sur le grill ou d'un Saint-Barthélemy ne sont pas toujours représentés. Les organes torturés, mutilés, les yeux, les seins sont le plus souvent pudiquement posés sur un plateau et présentés comme un accessoire, au même titre que la palme des bienheureux. Les outils du bourreau sont alors représentés comme une métonymie du martyr subi, le couteau pour l'écorchement. C'est une des grandes différences entre l'anatomie artistique et l'anatomie scientifique. Où sont les viscères ? Didier Huberman, dans son livre « Ouvrir Vénus », rappelle cette question des organes. Et pour lui, l'ouverture je vous le recommande d'ailleurs, cette lecture. L'ouverture d'un corps est une brisure de l'harmonie. Harmonie beauté versus effraction laideur. Dans la plupart des peintures, la pudeur descriptive suit finalement les règles iconographiques qui ont été édictées par la contre-réforme après le Concile de Trente. Par exemple, la contre-réforme, c'est quelque chose qui... j'ai vraiment pas le temps d'en parler, mais simplement, en ce qui concerne l'art et la peinture, il y a eu des règles iconographiques très strictes. Par exemple, l'âne et le bœuf ne sont plus vraiment clairement acceptés dans une représentation religieuse. De même que saint François ne devrait pas avoir les pieds sales. Ça ne se fait pas, ni saint Matthieu d'ailleurs. Que la Vierge, maintenant, devra être représentée debout. C'est une stabat mater et non plus quelqu'un qui est effondré de douleur au pied de la croix. Donc les règles iconographiques sont très strictes. Et effectivement, on se demande si elles ont aussi influencé une certaine représentation par rapport à cette littérature militante jésuite qui, elle, est souvent violente dans le récit des martyrs. Et pourtant, les jésuites et la contre-réforme, ça va ensemble. Alors, cependant, le martyr... Quand on suit le texte des bollandistes, ne ressent pas la souffrance, martyr lui-même, sans eux. Il ne ressent pas de la souffrance. Au mieux, les tortures infligées ne provoquent ni plaies, ni hémorragie. Elles sont, si on veut bien me pardonner ce barbarisme, apathologiques. On s'éloigne ainsi de l'humanité du corps humain, de son sang et de ses viscères. Certains peintres, pourtant, n'hésitent pas à explorer ce subdermique répugnant. Dans le cas notamment de l'écorchement, et représente cet instant ultime du statut humain du martyrisé, de son passage vers l'écorché et finalement vers le cadavre. Donc la peau protectrice, l'écran protecteur et la membrane que le bourreau n'a de cesse d'outrager. C'est un viol, un hymen violé. Étrange paradoxe pourtant de ce geste de torture, de cette effraction qui, en incisant l'enveloppe, permet à l'âme du martyr de s'échapper et rejoindre ce Dieu pour qui il est mort. Voilà.
Merci beaucoup, Madame Pinel, de cette conférence. On a eu de très belles représentations qu'on a du plaisir à revoir et pour certains à apprendre à regarder. Et en effet, ces martyrs ont tout à fait leur place dans notre séminaire sous la peau. Et ça paraît quand même très esthétisant. Je veux dire, on a un regard aussi esthétique. Ça veut dire que l'impression qu'on a, c'est un choc.
Oui.
Avec tout le récit que vous faites autour, mais aussi un choc esthétique. On ne peut pas s'en empêcher, même si on parle de douleur.
Oui.
On ne peut pas s'en empêcher. Donc,
ça rejoint ce que dit Canguilhem.
Voilà. C'est exactement ça, en effet. Merci. Donc, la parole à la salle.
J'ai effrayé tout le monde.
Allez, je t'en prends le micro, c'est comme ça. Bonsoir, c'est juste une question de terminologie. C'est quoi la différence entre écorchement et scarification ?
Alors, la scarification, c'est plus de la... Il y a cicatrice dans scarification. Par exemple, c'est... Voilà, et puis si vous faites un vaccin par scarification, c'est simplement, on va vous déchirer un peu la peau avec une plume, comme ça. Lacérer.
Mais la signification est différente, après, parce que...
Bah, écorché, on vous enlève la peau.
Mais scarification, est-ce que ça peut avoir un aspect religieux ou...
J'ai jamais vu, non. Moi, je connais... Oui, mais c'est vrai que David Le Breton a des pages. Mais l'écorchement... Vous enlevez le cuir, vous enlevez la peau. La scarification, vous le marquez, en fait. Vous la marquez. Mais en ce qui concerne les seins, ça, je ne sais pas. S'il y a des seins scarifiés, c'était votre question ?
Non.
Je voulais savoir sur ce que vous avez fini en fait par dire donc inciser l'enveloppe, ça permettait à l'âme de rejoindre Dieu. Donc j'aimerais bien que vous précisiez en fait là-dessus, parce que ça m'intéresse par rapport aussi à l'autopsie en fait.
Alors non,
les représentations de l'autopsie.
Alors, ce que je voulais dire, c'est bien sûr dans un registre totalement métaphorique, hein, ce n'est pas une déclaration de foi que je fais, mais simplement que l'idée d'inciser l'enveloppe, l'enveloppe qui contient, qui protège, vous l'incisez, et à ce moment-là, effectivement, c'est le moment où le martyr va mourir. Donc son âme rejoint, comme il est dit dans les traités théologiques, l'idée est que l'âme rejoigne Dieu. C'est comme si le bourreau permettait finalement, de façon paradoxale, mais ça c'est une analyse métaphorique, elle est absolument discutable, lui permet effectivement à ce moment-là, elle s'en trouve, cette peau s'en trouve pour. C'est une de mes analyses. Elle l'est pas parce qu'évidemment, quand tous les saints ne sont pas écorchés. Ils ne sont pas tous incisés. Souvent, en général, ils terminent décapités quand même. Ça, c'est quand même c'est assez définitif. Même Saint-Sébastien qui représentait flagellé, enfin, outre le fait qu'il est représenté comme un merveilleux jeune homme, on le voit percé de ses flèches. Ce qu'on le voit moins souvent, effectivement, je n'ai pas eu le temps de le montrer, c'est qu'il est soigné. Il y a un après. La sagitation. Il est soigné par les saintes femmes. À ce moment-là, on voit les blessures. Et puis après, en général, ils sont décapités. Il y a un moment où ils retrouvent le chemin de la propagande, où ils vont de nouveau convertir. Et à ce moment-là, la décapitation intervient. Soit elle intervient après, soit elle intervient tout de suite après le supplice. Mais souvent, ça se termine comme ça. Mais ce que je dis à propos de l'âme qui s'éloigne... C'est une interprétation personnelle qui est évidemment tout à fait discutable. Par rapport à l'anatomie, en revanche, la dissection, je ne sais pas ce que vous vouliez dire. Non. D'accord.
Vous attendez pas le micro, parce que c'est
enregistré. Est-ce que ça peut pas être contradictoire entre le fait, comme vous dites, on ouvre pour libérer l'âme, alors que justement le geste, ça va être de torturer, de faire du mal, oui, et de punir, et que justement, si oui, on ouvre, on peut libérer cette âme et aller retrouver ce Dieu, alors que ça devrait être une punition.
Voilà, c'est ce que je dis. C'est pour ça que je dis que c'est un geste paradoxal du bourreau. Mais c'est un geste qui n'est pas. C'est pas l'intention du geste, en tout cas, mais c'est qui se pourrait se passer. Mais c'est encore une fois totalement de la spéculation. Hein.
Bonsoir. Donc moi, en fait, je voulais savoir si, enfin, vous avez parlé de la crucifixion, et je voulais savoir s'il y avait un rapport justement entre tous ces martyrs écorchés, etc., et le plus grand des suppliciés, à savoir Jésus-Christ.
Oui, oui, c'est ce que je disais. L'idée, c'est de s'approcher le plus près de la passion, c'est-à-dire de souffrir. Donc il y a une espèce d'empathie, évidemment, avec le crucifié, le martyrisé numéro un, qui est Jésus-Christ, bien évidemment. Et ça, les textes le relèvent. Il faut que le martyr souffre, parce qu'il doit subir cette souffrance qu'a subie, effectivement, Jésus. Et l'idée du sang et du corps montré, blessé, évidemment, on le voit d'abord chez Jésus-Christ. Ça, c'est évident. C'est dans sa représentation. Donc il y a un parallèle qui doit être fait et qui est stipulé dans les textes, qu'il y a une empathie, enfin, elle n'est pas dite en ces termes évidemment, mais on doit se rapprocher de la souffrance du Christ, bien sûr.
Donc c'est par rapport en fait au titre, mais de toute façon que vous ayez mis celui-ci, voilà, c'est-à-dire soit plaisir et effroi d'une pratique perdue,
mais parce que...
soit sous la peau, non, le martyr sous la peau. Enfin, dans les deux cas, on parle quand même, il y a comme une opposition entre la douleur et la sensualité ou le plaisir.
Et ouais, mais c'est ça.
Et enfin, quelle dimension, enfin vous en avez pas parlé en fait de la dimension plaisir.
Ben non, non, parce que d'abord c'était effectivement pas le titre, mais bon, je peux en parler. Ce que j'ai esquissé tout à l'heure à propos de ça, du théâtre des supplices chez Mirbeau, c'est évidemment, si vous le retrouvez dans les 120 jours de Comore, ça, c'est tout ce qui est souffrance, c'est sadomasochisme, évidemment, plaisir, souffrance, je ne l'ai pas évoqué parce que c'était pas le sujet de l'exposé, mais c'est évident que ça marche ensemble. Le plaisir, l'extase. il y a une sainte qui s'appelle Sainte Thérèse qui subit une extase mais passionnelle quand elle est transverbérée. Elle est transverbérée, c'est-à-dire qu'elle reçoit l'amour du Christ en plein cœur. Métaphorique, bien évidemment, mais quand on la voit telle qu'Horace Leblanc, par exemple, a dépeint, on a l'impression d'une souffrance absolue, ou même la Thérèse du Bernin a les yeux révulsés, c'est évidemment un plein orgasme qu'elle est. Il y a forcément cette dimension-là. Le plaisir, la souffrance, c'est la même chose. Et ça, vous le retrouvez chez Sade et chez Mirbeau, bien évidemment.
On disait qu'il y avait un livre qui avait été écrit par une écrivaine italienne, Elisabeth Arasi, sur Sainte Thérèse.
Ah, c'est ça, je ne le connaissais pas, celui-ci.
Elle a écrit sur sa passion.
Passion dans tous les sens, effectivement. Ouais. Et d'ailleurs, Sainte Thérèse est une des... Les peintres baroques l'adorent, parce que c'est une représentation du mouvement, de la courbe, des affects, qui est formidable. C'est vraiment quelqu'un qui, effectivement, symbolise ce qu'est l'art baroque. Tout à fait. Donc, effectivement, c'est pas pour rien que Leblanc ou Bernin la représentent.
Donc je me disais qu'il y avait une des manières différentes de représenter en dehors du fait d'enlever les seins, l'homme et la femme. On ne les traite pas de la même manière.
Déjà physiologiquement, oui. C'est arracher les seins.
Est-ce qu'il y a autre chose autour?
J'en sais rien.
Question que je vous pose.
Probablement. Il faudrait que je fasse un petit tour sur Gallica, mais bien sûr que ça existe. Ça existe, j'en suis sûre, dans le théâtre des supplices, ça je le sais. Mais chez les saints, je ne sais pas. Une question, effectivement. Je pensais à écorchement, je ne pensais pas forcément à ça.
Parce que dans les représentations qu'on a, nous avez montré qu'ils sont aussi durs, bon, mais en mettant de côté le fait de torturer en arrachant les seins, l'homme est plus anatomique que la femme. La représentation de l'homme est plus anatomique.
L'homme est nu, la femme rarement.
Voilà.
Effectivement, vous avez raison de pointer ça, c'est qu'effectivement il n'y a pas de représentation de nu. Sainte Agathe, quand même, la première que j'ai montrée était assez découverte, me semble-t-il. C'est effectivement des nudités héroïques, des nudités masculines, rarement des nudités féminines. En train de la chercher, Sainte Agathe. Forcément, effectivement, on est obligé de la représenter.
Elles sont drapées.
Voilà. Oui. Mais c'est rare, c'est rare, effectivement.
Très allégorique autour. Il y a une représentation allégorique aussi. Tandis que l'homme est plus anatomique, oui.
Oui, absolument. Il n'y a pas de vraisemblance anatomique ou physiologique dans la représentation de la femme. Ça, c'est vrai. C'est vrai, je n'avais pas. J'avais pas étudié ça sous l'angle du gender, mais...
Oh non, je voulais pas faire du gender. Bon, on peut en faire, hein. Oui, on peut en faire, au contraire. Why not?
Bon, j'espère que je vous ai pas trop dégoûté de tout ça, quand même. Hein.
Non, c'est très original, comme approche. Vraiment.
Non. Ne m'en voulez pas, s'il vous plaît.
Encore des questions?
Oui,
des questions?
Bonsoir. C'est une réflexion tout à fait naïve. Je me suis toujours demandé en fait quelle était la portée de la représentation de la poitrine, enfin des seins vraiment. J'ai toujours l'impression que les seins sont plutôt rapprochés, ronds et ont une forme toujours assez commune comme... ils ont toujours, j'avais l'impression, de la même forme en fait, comme si c'était un stéréotype.
Comme s'il n'y avait qu'une forme de poitrine. Oui. Effectivement, oui, c'est vrai que... Mais ça répond certainement au canon esthétique de l'époque. C'est des... dessins assez peu développés en général, blanc effectivement. Oui, vous avez raison, c'est pas, il n'y a pas de variété.
Il y a une raison à ça, parce que je suis pas
non,
du tout...
Pas que je sache, il y en a probablement une, c'est les modes de représentation, en tout cas, hein, parce qu'effectivement, ça existe, hein, durant les siècles. On peut dire que celles du XVIe et XVIIe sont plutôt, effectivement, des poitrines peu développées et blanches, en tout cas. C'est pas des matières nutrix, ça c'est clair. Dessin.
Comme dirait Bretéché.
Voilà, à cette question donc exaltante des dessins et de leur morphologie. Ça renvoie pendant toute la période de la Renaissance au modèle de la statuaire, enfin un modèle reconstruit de la statuaire puisque la plupart des manuels, des traités rappellent l'obligation devant laquelle se placent les peintres aussi bien aguerris qu'apprentis. C'est-à-dire, certes, observer, comme vous l'avez dit, l'anatomie, comprendre l'organisation du corps humain en regardant ce qui se passe, en faisant du nu, en faisant de la dissection, mais aussi en imitant les anciens.
Ah oui, l'étude des antiques est effectivement...
Et il y a cette espèce de dialectique, de dosage bizarre entre...
La statuaire,
effectivement, j'imite, c'est les imitations qui donnent le maniérisme, finalement, dans une certaine mesure. Et d'autre part, la prise en compte, la prise en charge de ce qu'offre un corps, un vrai corps. Et on sent bien, vous voyez, là, c'est frappant, enfin, je veux dire... C'est un corps qui n'est pas un corps.
Non,
c'est tout. Et la remarque que vous avez faite, en effet, va dans ce sens. C'est-à-dire qu'on a effectivement une sorte de stéréotypie du corps féminin, notamment, c'est ce que je disais, qui me paraît lié à cette espèce d'impératif esthétique.
Absolument. C'est vrai qu'elle a, elle est blanche comme du marbre.
Voilà, c'est ça.
C'est effectivement plus une statue antique, vous avez raison de le rappeler, c'est effectivement l'imitation des anciens et l'imitation de la nature, mais l'imitation des anciens qui, effectivement, en évacuant tout côté érotique absolu de la femme. Là, c'est des seins qui ne servent pas, ni à nourrir, ni à séduire.
Je crois que c'est terminé. Mais merci infiniment. On ira dîner quand même. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Madame Opinel. Merci bien.
Merci à vous.
Donc, je vous invite tous à finir ce séminaire sous la peau. On n'a pas fini d'en parler parce qu'année prochaine, on continue, heureusement, avec notre journée d'études, avec la conférence qui complétera toutes les autres conférences aussi, et dont a parlé Madame Opinel, la conférence de Raphaël Mandrési, Traverser la peau, donc sur une histoire de l'anatomie, le 11 décembre à 18h30. Merci.
Je connais pas, je connais. Il est maintenant, ça va virer. Oui, oui. Il a un...